Paris 2024, Portrait d'athlète, une série de résonances sonores réalisée par Agnès Gontier.
J'aime le côté duel, on est un contre un et à la fin, il y a un gagnant, un perdant. Et surtout, l'adaptation permanente. Avec chaque, c'est même plus que chaque adversaire, c'est chaque match. Il va falloir s'adapter à ce que fait l'adversaire et lui va s'adapter à nous. Maxime Vallée, donc athlète paralympique en escrime fauteuil. Moi, j'ai fait les Jeux de Rio en 2016 avec 2 médailles de bronze, une individuelle, une par équipe, et les Jeux de Tokyo en 2021 avec 1 médaille de bronze par équipe et bientôt les Jeux de Paris. C'est un jeu d'échecs en fait, en permanence, un contre un, à se dire « Ah, tu m'as fait ça, ok, ben, pour te contrer, moi je vais faire ça ». Et lui, il va s'apercevoir « Ah ok, tu m'as eu comme ça, ben, je vais te contrer là ». Donc on est sur un jeu tactique, technique, physique, permanent. Et ça, c'est quand même super stimulant. Okay. Okay. En escrime fauteuil, on est le seul sport paralympique en fauteuil où on ne déplace pas le fauteuil. Et en fait, on va se déplacer nous sur le fauteuil au lieu que ce soit le fauteuil qui bouge. Et donc, on se déplace sur le fauteuil avec donc, la main armée qui tient l'arme et la main non armée qui va tenir une barre à l'arrière qui nous permet de nous propulser vers l'avant pour aller toucher et revenir en arrière pour faire la défense. Et donc pour ça, on a 2 catégories de handicap, ceux qui ont l'équilibre du tronc et ceux qui ne l'ont pas. Parce que ça fait une grosse différence physique sur la performance entre moi, ma catégorie, qui fait les allers-retours avec uniquement le bras non armé, et ceux qui le font avec leurs abdos et leurs jambes.
Petit coup sur le bras pour le faire relâcher, et paf.
Il est grand, manteau. Je ne sais plus où j'en suis, 10, 10, 4, prêt, allez.
Je pense que le son caractéristique de l'escrime, c'est le choc des lames. Nous, c'est quelque chose qu'on travaille, ce qu'on appelle la sensation du fer, en fait. L'impact que vont avoir les lames l'une sur l'autre, ça fait une sensation au niveau de la main, une sensation aussi au niveau du son qui est différent en fonction de l'endroit où se croisent les lames et de l'impact qu'il y a à ce moment-là. Le son nous aide à la performance et on sait aussi que le son participe à l'arbitrage. Au fleuret comme au sabre, il y a une règle de priorité parce que c'est 2 duels à mort. Il faut qu'il y en ait un qui tue l'autre et que le vainqueur il reste en vie. Donc en fait, il y a une règle de priorité qui fait que moi je vais attaquer, mon adversaire va se défendre. Là, il a le droit d'attaquer, je me défends, le droit d'attaquer. Et pour se défendre, la principale solution, c'est d'aller écarter l'arme de l'autre en tapant dessus. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir le son pour l'arbitre. Ça lui permet de savoir, il y a eu un bruit, donc c'est lui qui s'est défendu, hop, l'adversaire a le droit d'attaquer. Ou il y en a eu 2, que, il s'est défendu, mais l'autre s'est redéfendu immédiatement, donc il a gardé le droit d'attaquer.
Alors, je m'appelle Brigitte Aragou, je suis maître d'armes. J'enseigne donc l'escrime, j'enseigne différentes sortes d'escrime, puisqu'il y a le fleuret, l'épée, le sabre, et aussi de l'escrime artistique et l'escrime handisport. Ça fait 25 ans que j'enseigne. J'ai débuté Maxime à l'âge de 7 ans. Il n'était pas en fauteuil. Hein, quand il a commencé l'escrime, il était debout. Il a eu un accident beaucoup plus tard qui l'a mis en fauteuil. Et c'est avec lui que j'ai débuté l'escrime handisport. Il n'y a pas beaucoup de changements. Là, vous allez voir, ils vont s'entraîner. Donc, c'est des valides et les handisports s'entraînent ensemble. Les valides, ils ont un terrain de jeu qui fait 1,50 m sur 14 m de long, où il faut y rester et se déplacer. Donc, c'est presque un couloir. Donc, ils se déplacent d'avant en arrière. Et en handisport, donc ils sont sur le fauteuil, mais ils ont quand même des déplacements au niveau du buste, vers l'avant et vers l'arrière. Mais c'est des déplacements aussi. Et après, la technique de l'arme, c'est identique, complètement identique.
Bon, on dépasse avec une marche. Prêt ? 4, 6, porte, 7, 5, 3, seconde, contre 2, 6. Je vois le cercle, hein, contre 2, 6.
Une préparation pour les Jeux, ça se prépare entre un an et demi et deux ans avant. Il y a des cycles de préparation physique, technique, tactique, de préparation mentale et de préparation du matériel. Parce que en plus du matériel du fauteuil, nous on a aussi les armes à préparer. Il y a beaucoup de paramètres qu'on va tester en général pendant les un an et demi de préparation. Et il faut qu'à 6 mois de l'échéance, le matériel y soit arrêté, pour qu'on puisse s'entraîner avec le matériel définitif pour les Jeux.
Parade avec une retraite, riposte en forme.
Les Jeux paralympiques, ça, j'allais dire, ça décuple les émotions, mais c'est plus que ça. Hein. C'est un fois 10 000 au niveau des émotions. Et la médaille en individuel à Rio, ça a été un souvenir extraordinaire au niveau performance. Et la médaille aussi, là, par équipe à Tokyo, ça l'a été, mais dans un contexte, ça a été presque libérateur, en fait, à Tokyo, parce que voilà, il y avait la crise du Covid, où on ne savait pas si on allait participer aux Jeux tout court. Une fois sur place, à tout moment, on pouvait être positif et repartir en France. C'était le dernier jour de compétition. La France n'avait pas ramené de médaille, donc c'était là ou jamais. Moi, 2 jours avant, j'avais fait 4e, donc juste au pied du podium. Et voilà, le fait de faire cette médaille de bronze sur la Russie, qu'on n'avait pas battue depuis 10 ans, ça a été presque un grand ouf, quoi, de soulagement et émotionnellement, ça a été très fort.
Voyons, reprenez la distance, là. Reprenez la distance. Oui, là, vous êtes très près. On avait coincé.
Vous n'avez pas verrouillé. Et
voilà, je me disais aussi.
Vous n'avez pas verrouillé.
On a avancé sacrément
sur la mesure.
Et oui, au départ, vous êtes entraîné, ça a avancé, vous étiez très près. Là. Alors, tu vois que ta distance te va bien, et quand il est plus près, c'est.
Pour l'habitude.
Ah oui, c'est sa distance qui. Cette barre, donc, sert à prendre la distance. Et la distance, donc, vous avez vu. Il faut qu'il soit à l'angle du coude.
Qu'il tente le fleuret et que ça arrive voilà. à l'angle du coude de l'adversaire. Mm-hmm. D'accord. Donc il y a une sorte de crémaillère par terre qui tient
voilà.
Les fauteuils avec des
socles. Donc il faut la prendre à chaque fois. Mais là, il n'avait pas sécurisé. Il faut le fermer. Là.
Bon, même chose,
on
mélange le bras et on fait une retraite. Prêt ? Top !
Donc Christophe Debar, je suis responsable d'un laboratoire d'innovation pour Airbus. Et on a été mis en relation avec Maxime pour travailler sur son fauteuil à travers d'une initiative qui s'appelle le Humanity Lab. Et on a fait travailler des bénévoles sur son fauteuil qui ont amené leurs compétences pour répondre aux besoins qu'avait Maxime pour améliorer ses performances pour les Jeux de Tokyo.
Le fauteuil en escrime, mais dans les sports paralympiques en général, c'est une part importante de la performance en fait. On le compare un peu à la Formule 1, c'est-à-dire que t'as beau être le meilleur pilote, si t'as pas la meilleure voiture, tu gagneras pas. Sur les sports paralympiques, c'est pareil, si ton fauteuil est pas adapté et pas performant, ça va nuire à ta qualité de performance. On essaie en permanence d'avoir un fauteuil performant et surtout d'avoir un petit coup d'avance sur les autres.
C'est plus secret puisqu'il l'a utilisé en public. L'idée, c'était de gagner en allonge d'une manière très pragmatique. On a essayé de trouver des solutions qui étaient faciles à mettre en place. Alors, il y a un long temps d'analyse derrière pour savoir exactement ce qu'on pouvait faire, mais après, on l'a fait par l'expérimentation. C'est ce qu'on fait exactement dans notre labo d'innovation chez Airbus. On teste, ces tests nous donnent des réponses. Et là, on a appliqué exactement le même processus, on a prototypé des choses, on a fait une poignée qui permet d'avoir une seconde attache qui permet de gagner en amplitude pour gagner ces quelques centimètres qui peuvent faire la différence dans une compétition.
On étire le bras vers l'avant. En garde. Prêt. Encore une fois. Prêt. Allez. On étire le bras.
Et l'amplitude, c'est important, surtout que je ne fais pas partie des grands gabarits en escrime. Et c'est vrai que des fois, je me retrouvais à perdre des matchs parce qu'il me manquait des fois 1, 2, 3 cm. Et se dire perdre juste parce que tu es un peu moins grand que les autres, c'était quand même un peu ralent. Et voilà, donc là, l'objectif de cette poignée, c'était vraiment ça, de compenser en fait cette différence de taille par rapport aux autres, tout en restant stable, équilibré et précis, parce qu'on est quand même un sport de précision.
Au début, je pense que tu étais un petit peu sceptique sur le fait que la poignée puisse apporter quelque chose et que tu gardes l'équilibre et tout ça. Mais on a vu qu'en expérimentant et en modifiant, en faisant plusieurs itérations, on pouvait voir que ça amenait un bénéfice. Et après, on a fait la version finale, qui était une poignée en inox, beaucoup plus robuste que les premiers prototypes qu'on avait fait. Quoi.
On réfléchit en permanence sur le fauteuil, sur comment l'améliorer. Et surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde aussi ce que font les autres. En fait, à chaque compétition, on fait le tour des fauteuils des autres pour voir les idées qu'eux ont eues sur la poignée. Un des enjeux aussi, c'était de pouvoir l'utiliser à l'entraînement et de l'enlever quand on va en compétition pour pouvoir la sortir et l'utiliser qu'au moment des Jeux et pas se faire, entre guillemets, piquer l'idée.
Voilà, c'est ça que je veux. J'ai tendance, il faut que je parte en fente, parce que ça va te changer la distance, comme je fais la première.
Vas-y. On le voit beaucoup sur le handisport, en fait, où l'image, ça a été pendant longtemps de regarder, c'est des personnes handicapées qui font du sport, voilà. C'est bien ce qu'ils font, ils se dépassent, c'est génial, sans montrer le côté performance. Nous, on a vraiment vu la différence, en fait, sur les Jeux de Rio, où France Télé s'est investie pour retransmettre les Jeux. Et a commenté les Jeux et les a présentés via le côté performance. Et pas le côté, regardez, même avec une jambe en moins,
ça,
il s'est nagé.
Super.
Quoi.
Là, vraiment, tu as intercepté dès le départ. Ouais. C'était super, ça. Encore une fois, et après, on change de riposte.
Et donc, on a senti vraiment cette différence. On est passé du sport santé au sport de haut niveau et au sport de haute performance. Et ce genre d'initiative va dans le même sens où on va aller chercher de la performance sur le fauteuil et où le fauteuil, c'est plus juste un outil pour se déplacer. Ça devient un outil de performance.
Là, tu vas impeccable.
Ah, elle est mieux.
Hein? Donc, on est vraiment passé sur du sport performance et c'est cette image-là aussi qu'on veut donner via le sport de haut niveau.
Pour Paris 2024, vous attendez quoi ?
Moi, ce que j'attends surtout, c'est l'engouement populaire, en fait, derrière, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu à Rio pour ma médaille de bronze, sur les deux demi-finales. Moi, ma demi-finale, moi, je la perds dans une ambiance, on va dire, relativement normale. Et l'autre demi-finale, en fait, c'est un Chinois contre un Italien, et le public a pris en grippe l'Italien. Et donc, en fait, sur notre médaille de bronze, donc c'était contre l'Italien, alors ils m'ont soutenu à moi parce qu'ils ont un peu détesté l'autre. Et donc, j'ai eu tout d'un coup le stade entier qui me soutenait. Et en fait, avant de voir que la lampe s'allumait parce que j'avais touché, je sentais le public qui explosait sur chaque touche. Et ça a été une sensation extraordinaire. Je pense que c'est le meilleur match d'escrime que j'ai jamais fait. Alors, il n'y a pas que grâce à ça, mais en partie grâce à ça. Et là, on se dit, à Paris, en fait, on va faire une compétition entière avec cette sensation-là d'avoir 5000 personnes qui vont pousser derrière nous. Et je me dis, grâce à cet engouement, si on arrive à gérer cet engouement, que ça ne nous bride pas, ça peut permettre de passer d'une médaille de bronze à une médaille d'argent, voire une médaille d'or.
C'était Maxime Vallée, athlète de haut niveau en para-escrime. Un portrait sonore réalisé par Agnès Gontier, mixage Sofia Riboloff, Midim Studio, avec l'aide de la Drac Occitanie dans le cadre des Olympiades culturelles. Retrouvez son podcast sur www.resonance-sonore.fr.